Merci beaucoup. Alors, c'est très difficile de parler d'un sujet qui bouge si vite. Hein. Tous les jours apporte sa nouveauté, on va dire, dans ce domaine-là. Donc, je vais essayer de fournir quelques repères qui puissent, voilà, sur lesquels on puisse ensuite éventuellement échanger. Déjà, on peut dire que sur les discours, les MOOCs ont 2 ans, on va dire, en gros 24 mois, pas beaucoup plus. Alors en 2 ans, on est passé de discours très utopistes à des discours très catastrophistes, du scepticisme à l'optimisme. Je résistais pas à l'envie de vous montrer quelques exemples voilà, de ce qui se dit sur les MOOCs. Hein. Commençons par là, commençons par les choses sérieuses. Voilà, alors le Day of the MOOC, bon, on voit bien les formes d'expression que peuvent prendre ce genre de choses. Voilà, on est parfois dans le catastrophisme le plus fort. Alors, je vais revenir sur certains acteurs. Hein. Des expressions très fortes, en fait, très radicales. Mais il y a aussi de l'optimisme. Hein. Je vous ai montré que des pessimistes. Il y a aussi des optimistes. Pourquoi pas? On pourrait imaginer ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce domaine? Il y a un fait qui est initiateur de ça, qui est... Une personne bon, qui s'appelle Sébastien Thrun, qui est allemand d'ailleurs, hein, et qui est immigré aux États-Unis, qui est le fondateur de Google X, le laboratoire de Google, qui travaille sur la Google Car, qui travaille sur les Google Glasses, et qui est le responsable d'un labo à Stanford, un labo d'intelligence artificielle. Et donc, il y a un cours d'intelligence artificielle. Et puis, un jour, il décide de mettre ce cours en ligne, voilà, d'enregistrer des petites vidéos. Il communique un peu sur ce cours-là. Il va voir l'association des professionnels de l'intelligence artificielle américain. Et puis, il se retrouve très vite avec 5 000, 10 000, 50 000 inscrits. Et puis, le New York Times fait un article sur lui, vu les volumes qui commencent à s'afficher. Et du jour au lendemain, il passe à 100 000. Et puis, quand il ouvre son cours en octobre 2011, il a 160 000 inscrits. Vous imaginez ? Évidemment, c'est en gros 10 fois le nombre d'étudiants inscrits de manière régulière à Stanford, pour tout Stanford, hein, sur un cours d'intelligence artificielle. 2/3 de non-américains, 190 pays concernés. Les supports utilisés sont traduits par les gens un peu partout dans les pays, dans les dialectes locaux. Enfin, bon, il se crée quelque chose qui se passe là. Et puis, il y a surtout une énorme surprise, c'est qu'au classement, dans les évaluations qui sont faites sur ce cours-là, il faut attendre la 411e place pour qu'un étudiant suivant le cours en présentiel à Stanford arrive. Donc, c'est-à-dire que les 400 premiers, ils ont suivi le cours à distance. Alors ça, c'est une promesse, évidemment, c'est l'annonce d'une promesse extraordinaire. Il y a un fait générateur derrière ce fait initiateur, comme j'aime bien l'appeler, c'est qu'en fait, Thrun a écouté un jeune gars qui s'appelle Salman Khan, qui est un analyste financier américain, qui s'est lancé à ses heures perdues dans la création d'une petite, ce qui s'appelle la Khan Academy, donc un petit réseau de petites vidéos, des vidéos très courtes qui sont mises à disposition sur Internet, sur plein de sujets, ça va des mathématiques à l'histoire, accessibles sur YouTube, donc accessibles par tous. Et Khan fait une présentation de cette expérience-là lors d'une conférence TED en mars 2011. Thrun est dans la salle. À la fin de la séance, Bill Gates vient voir Khan et dit vraiment, votre truc, c'est l'image que vous avez là, votre truc, c'est l'avenir de l'éducation, c'est l'avenir de l'enseignement supérieur. Et Thrun le dit lui-même, c'est la révélation. Voilà. À écouter Salman Khan, il a une révélation. Et c'est ça qui va le pousser à mettre son cours d'intelligence artificielle en ligne. Alors pour la petite histoire, Salman Khan a bénéficié lui-même à son origine d'un apport de 2 millions de dollars de Google. C'était en 2010. Hein, donc on retrouve systématiquement d'ailleurs Google derrière tout ça. Aujourd'hui, le paysage des MOOC, c'est à peu près ça. Hein, donc c'est en gros 4 grands acteurs, la Khan Academy de Salman Khan dont je viens de parler, mais surtout Coursera, Udacity et edX qui sont en gros les acteurs majeurs. C'est Thrun donc, qui lance Udacity fin 2011. Il utilise d'ailleurs une image que moi j'aime beaucoup, je ne résiste jamais à en parler. Il utilise une image qui est tirée du film de Matrix. Il dit qu'en fait quand il est sorti de la conférence TED, puis quand il a lancé son cours, quand il a vu qu'il y avait 160 000 élèves, 160 000 inscrits, il s'est dit, j'étais en position comme si j'avais une pilule bleue, une pilule rouge. Alors, je ne sais pas qui a vu Matrix dans la salle, mais donc c'est un moment où Morpheus propose à Neo de soit de prendre une pilule bleue et de rester dans l'état de conscience dans lequel il est, soit de prendre une pilule rouge pour atteindre un niveau de conscience supérieur qui va lui montrer ce qu'est la réalité. Bon, Thrun utilise cette image-là et il dit, j'ai décidé, plutôt que de prendre la pilule bleue qui m'aurait ramené à une classe de 20 étudiants, j'ai pris la pilule rouge et j'ai vu Wonderland, comme il dit. Voilà. Et c'est ça, Wonderland. Donc, c'est ce qui va le pousser à créer Udacity. Le MIT et Harvard vont répliquer quasiment immédiatement en lançant la plateforme edX. Et puis, 2 autres profs de Stanford vont créer au début 2012. Vous voyez, c'est vraiment très récent. Une autre grosse plateforme qui s'appelle Coursera. Voilà un peu le paysage aujourd'hui. Alors, un MOOC, c'est quoi ? Beaucoup diraient que ça ressemble à des choses qui existent déjà depuis longtemps. Ça fait en effet longtemps qu'on fait de l'enseignement à distance. Donc en gros, un MOOC, c'est un cours qui est en ligne, ouvert, massif. Alors si on reprend un peu chaque caractéristique, ouvert, ça veut dire qu'il n'y a aucun processus de sélection, dans tous les cas dans les principes de base. Ni l'âge, ni l'expérience, ni un niveau quelconque de formation, ni la maîtrise de la langue d'ailleurs. Hein. Vous pouvez suivre un cours dans n'importe quelle langue. À la limite, on ne va pas se préoccuper du fait que vous la connaissiez, cette langue à l'origine. Il n'y a pas de droit d'inscription. Donc c'est vraiment complètement ouvert et donc forcément il n'y a pas de certification. C'est-à-dire que vous n'avez pas de promesse à la fin d'avoir un diplôme quelconque. Il n'y a pas de parcours diplômant en tous les cas. Deuxième caractéristique, en ligne. Donc en ligne, ça veut dire que toutes les ressources disponibles sont accessibles gratuitement, encore une fois, hein, puisque c'est ouvert. Ça veut dire aussi bien les livres. Alors vous avez, en effet, moi j'ai suivi un cours à Harvard et puis un cours à Copenhague. Vous avez même les livres des profs qui sont accessibles en format électronique, bien sûr, mais en ligne. Donc les manuels, etc., les cours, les textes de base, bon, tout est gratuit. Hein. Tout est accessible gratuitement dans cette optique-là. Bon, quand même une précision, il s'agit bien de faire un cours. Donc il y a bien un déroulé, il y a bien une planification de leçon, hein, il y a bien, vous savez bien que telle semaine vous allez aborder tel sujet, la semaine d'après tel sujet, avec tel texte à lire, telle vidéo à regarder, telle session de partage en ligne sur une plateforme d'échange temps réel, etc. Bon. Donc il y a vraiment voilà, un ensemble de caractéristiques, mais qui sont, une fois assemblées, assez classiques. Donc ce n'est pas vraiment ça qui change de l'enseignement à distance tel qu'on peut le faire, ou qu'on le fait dans certaines universités, ou même aux États-Unis, même le MIT le faisait depuis 10 ans avec certaines choses. La vraie différence du MOOC, c'est le massif. C'est le caractère massif, puisque en gros, grosso modo, les enseignants se retrouvent avec un nombre d'étudiants en un temps très court qui dépasse largement tout ce qu'ils ont pu connaître eux-mêmes comme étudiants en présentiel durant leur carrière. Alors il y a des témoignages de profs, ça c'est vraiment renversant, hein, qui disent, vous vous rendez compte, j'ai face à moi virtuellement plus d'étudiants que je n'ai jamais eu durant ma carrière, même si elle a été longue. Hein. Et parfois plus d'étudiants même que l'université peut en accueillir physiquement. Donc il y a bien ce caractère massif qui crée quelque chose, qui crée un phénomène. C'est là aussi que le bât blesse. C'est-à-dire que derrière ce côté massif, quand on regarde un peu ce qui se passe sur les plateformes, je reviendrai un peu sur ce que rendent comme service les plateformes, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses entre le nombre d'inscrits et le nombre d'étudiants qui passent l'évaluation à la fin. Il n'y a pas de diplôme en tant que tel, mais il y a quand même des évaluations possibles, une sorte d'examen qui sont possibles. Quand on regarde le nombre d'inscrits au début et le nombre de personnes qui passent l'examen à la fin, il y a des pertes considérables. En gros, on considère que déjà, il y a 70%, selon les statistiques, de ce qu'on appelle les no-shows, c'est-à-dire qui sont des gens qui s'inscrivent mais qui ne se présentent jamais en cours. Alors, qui ne se présentent jamais virtuellement en cours. Voilà. Donc déjà, vous imaginez, ça fait un gros volume en moins. Ensuite, on a, alors, bon, il y a des catégories, des typologies qui ont été mises en place pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait avec ce qu'on appelle les lurkers, alors, qui sont des auditeurs libres, en gros, donc, qui viennent picorer un petit peu, les participants passifs qui picorent aussi. Le fait est, c'est concrètement, les participants actifs, et encore mieux, ceux qui vont jusqu'au bout et qui suivent l'évaluation, donc qui se soumettent à l'évaluation finale. En gros, il y a des chiffres qui tombent encore une fois tous les jours, et les chiffres sont plutôt à la baisse. On parlait de 10%. Il y a encore quelques mois. Maintenant, les dernières statistiques parlent de 4 à 5%. Harvard et le MIT là, viennent d'annoncer leurs chiffres pour 2013. 2013, c'est 5% des inscrits qui ont passé l'examen final. 5%. Ça fait quand même 43 000 personnes. D'accord ? Donc, là encore, c'est vrai qu'on est dans le massif-massif, puis on retombe sur du massif moins massif, mais massif quand même, quoi. 43 000 personnes, il faut le faire, il faut pouvoir le gérer. Alors justement, comment on gère ça ? Alors ça va être le rôle des plateformes, de gérer ces aspects-là. Donc là, beaucoup de promesses technologiques, là, pour le coup, sur ce sujet-là. Hein. Automatisation de la gestion, automatisation de l'animation des cours, avec possibilité pour les élèves d'aller sur des forums. Globalement, il y a un paradoxe qu'on voit vite apparaître, c'est qu'on cherche avec les plateformes MOOC à faire de l'individuel de masse. Donc on veut continuer à faire de l'individuel, comme si on était en présentiel, mais avec des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que techniques. Et là encore, les promesses faites par les opérateurs, les plateformes de MOOC sont assez impressionnantes. Concrètement, qu'est-ce qui se met en place quand on regarde dans les cours ? Beaucoup de choses sont faites par les étudiants eux-mêmes, par les auditeurs eux-mêmes. Donc il y a des procédures ou des processus qui se mettent en place où les étudiants se réunissent par exemple par pays, par plaque, on va dire, territoriale, et se réunissent en présentiel pour réviser, ou par langue, hein, par affinité linguistique. On demande aux étudiants de corriger les copies des autres étudiants. Enfin voilà, on retombe sur ce genre de mécanisme qui pallie encore une fois au problème de la masse. Question business model. Qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Alors, quand on regarde en gros les trois grandes plateformes, hein, je ne parle pas de Salman Khan, de la Khan Academy, mais surtout Coursera, Udacity et edX. Déjà, vous avez des plateformes qui sont à but lucratif, d'autres pas. Donc Coursera, par exemple, est une plateforme à but lucratif, alors que edX, qui est l'association du MIT et d'Harvard, est à but non lucratif. En gros, toutes les plateformes offrent à leurs clients, aux universités, des solutions pour la conception, l'hébergement, la diffusion, l'animation des cours. Quand on dit animation, on parle d'évaluation, on parle de communication, on parle de certification éventuellement, donc de délivrance de certificats d'accomplissement, ils appellent ça, hein, ou de badge. Et en échange de ce service-là, les plateformes touchent en général une redevance qui est soit fixe, soit proportionnelle, et puis se répartit éventuellement les revenus. Qu'est-ce qui est offert aux universités derrière ça, en dehors de ces aspects techniques-là? C'est deux solutions, soit elles utilisent les outils mis à disposition par les plateformes pour créer leurs propres cours, soit elles achètent une licence pour un cours créé par une autre université. Alors c'est là aussi, il y a en effet un risque, il y a un problème. Il y a eu une révolte d'ailleurs, bon, une petite révolte, mais une révolte quand même dans une université américaine de profs de philosophie qui un jour se sont vus quasiment imposer par leur hiérarchie un cours de philo fait par une autre université. Ils se sont dit, c'est pas possible, on ne peut pas accepter que nos élèves suivent un enseignement que nous n'ayons pas nous-mêmes produit, ou nous n'ayons pas en tous les cas labellisé ou certifié. Bon. Quel que soit le sujet, en tous les cas, il y a ce risque-là. Il y a ce risque, en effet, et c'était le modèle assez recherché au début, de se dire, ben voilà, on va prendre quelques grands cours et puis on va les mettre en boîte, grosso modo, puis une fois qu'on les aura, on pourra... Enfin, le business model va nous permettre de les diffuser, donc de les vendre à grande échelle, dans le monde entier. Et c'est comme ça, bon, c'est une manière de faire rentrer, en effet, de l'argent. Donc là, il y a des enjeux d'influence qui sont forts. Il y a des risques, en effet, élevés de diffusion d'une pensée unique, hein, bien évidemment, et dans certains domaines, encore plus que dans d'autres. Mais il y a quand même une forte réaction, en tous les cas, de certains enseignants globalement. Une autre solution, c'est de faire payer aux étudiants une redevance en échange de l'obtention de crédit. Donc là, c'est le processus de certification, même si à l'origine, on parlait d'un monde ouvert, complètement ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, on se dirige vers un monde où il y a plusieurs possibilités. Vous avez le choix, en effet, de ne pas payer, de suivre le cours, mais il n'y a pas de certification à la sortie. Et puis l'autre choix, c'est si vous payez, vous pouvez en effet avoir un certificat. Donc là, vous avez un exemple de Udacity, hein, où vous voyez, pour $90 par mois, vous pouvez suivre un cours d'introduction à l'informatique, on va dire, hein, création d'un moteur de recherche. Et à l'issue, si vous réussissez les évaluations, ben vous avez un certificat de Udacity. Dernière source de revenus qui n'est pas négligeable, hein, qui n'était pas négligeable en tous les cas au début, dans les plans qui étaient prévus, c'était la relation avec les recruteurs. Alors là, pour le coup, Udacity, FinceRun, misait beaucoup là-dessus au début, en disant, bah, notre business, ça va être quoi? Ça va être, en gros, puisqu'on enseigne à des étudiants, à des élèves, on les évalue. Comme on les évalue, on va être capable de repérer ceux qui sont les meilleurs. Et comme on aura repéré ceux qui ont les meilleurs, bah, on va pouvoir les placer facilement auprès d'entreprises qui vont nous payer, bien évidemment, pour faire ça. Donc, en court-circuitant de cette manière les cabinets de placement classiques. Hein. Il y avait une désintermédiation, là, dans ce cas-là, une réintermédiation sur ce segment de marché. Udacity a développé énormément de MOOC. Donc là, vous avez un exemple. Les prix augmentent. Hein, c'est $200 par mois, là, en l'occurrence, pour être capable de travailler, de développer des applications mobiles, web mobile. Et là, c'est en collaboration avec Google. Vous en avez plein d'autres. Et Udacity s'est un peu tourné vers ce segment-là, d'être capable de passer des accords avec des grandes sociétés informatiques, c'est vrai pour Autodesk, c'est vrai pour Microsoft, etc., de manière à établir cette relation et en tirer un profit. Dans le même genre d'idée, mais là, on va plus loin encore. C'est la première fois, d'ailleurs, que ça se passe. C'est la Georgia Tech. Ça vient de se faire. Hein. Ça s'est lancé au 15 janvier, même si ça a été marketé bien avant, dès l'année dernière. Le premier Master of Science, encore une fois en informatique. Évidemment, le prix est plus élevé, hein, c'est un vrai diplôme là pour le coup, c'est pas un certificat, c'est un diplôme. $6,600. Ça coûte en gros $45,000 quand c'est suivi de manière traditionnelle, de manière classique, sur le campus de Georgia Tech, qui fait partie sur ce segment-là, hein, des universités les plus prestigieuses, qui le dit en tous les cas. Ils espéraient attirer 10 000 étudiants quand ils l'ont lancé en août 2013. Ils démarrent là au 15 janvier avec 375 étudiants. Bon, 375 fois $6,600, ça fait quand même $2,4 millions. J'en connais beaucoup qui seraient, ne serait-ce que par ce montant-là, attirés. 60% de ces $2,4 millions vont à Georgia Tech, 40% à Udacity. D'accord ? Donc on est quand même sur des volumes assez importants. Le coût est nul. Pourquoi le coût est nul ? Parce que c'est ATT qui finance. ATT a mis $2 millions sur la table. Pourquoi ? Pour avoir accès, en fait, tout simplement à un creuset d'employés potentiels bien formés. Donc, vous voyez les équilibres économiques parfois, enfin les montages qu'il y a derrière ça. Alors, très clairement, Udacity maintenant se dirige complètement sur ce modèle-là, de travailler main dans la main avec des entreprises qui sont en recherche de personnel bien formé, on va dire, dans un contexte qu'il faut interroger aussi, enfin, vous connaissez, qui est le contexte américain de reprise et puis de très forte attente. Je crois que c'est à peu près 800 000 emplois dans les high-tech qui doivent être fournis dans les 12 mois, on va dire, ou dans les 2 ans qui viennent. Voilà, alors, C'était quelques repères. Je finirai simplement sur ce petit graphique-là. C'est Gartner qui présente ça, son cycle des technologies émergentes, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le creux de la vague. Alors, côté américain, en tous les cas, il y a eu une grande attente vis-à-vis des MOOC. L'utopie l'a beaucoup remporté au début, notamment sur un critère dont vous avez parlé, qui est celui de la démocratisation de l'enseignement. Il y a beaucoup de gens qui voyaient dans les MOOC la possibilité d'enfin pouvoir apprendre à tout le monde, au plus grand nombre en tous les cas, à moindre coût. Ça ne marche pas finalement, ça ne marche pas. Alors la revue Nature vient de publier les résultats d'une étude qui montre qu'en gros, ceux qui suivent les MOOC, qui sont intéressés par les MOOC, sont ceux qui sont les mieux formés déjà et souvent les plus riches. Alors les plus riches dans une optique mondiale, dans une optique je forme l'Afrique, je forme les Africains, enfin les gens qui ont un niveau d'éducation, un niveau d'enseignement bas, on va dire. Voilà, visiblement ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne répond pas, on va dire que les MOOC ne répondent pas ou n'ont pas l'air de répondre au canon, en tous les cas, de ce qu'on peut attendre d'un enseignement traditionnel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi cette partie-là, on pourra en rediscuter, mais on analyse ça avec des métriques et avec des attentes qui ne correspondent pas. Les gens qui suivent des MOOC aujourd'hui ont l'air des gens qui ont l'air d'être intéressés en termes de curiosité intellectuelle, mais pas forcément de formation en tant que telle. Donc ça, c'est à discuter. En gros, les MOOC posent, je finirai là-dessus, deux grandes questions aujourd'hui. Une question de risque, en effet, d'uniformisation de l'enseignement, de la pensée, mais aussi une opportunité assez importante, en tous les cas, moi, je trouve, pour des disciplines qu'on dit orphelines. Il faut voir l'offre qu'il peut y avoir en termes d'enseignement, mais il y a des sujets. À Édimbourg, par exemple, ils ont un MOOC sur la découverte de vie extraterrestre. C'est pris très au sérieux. Bon, pourquoi pas ? On peut imaginer, d'ailleurs en Allemagne, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, il existe des disciplines orphelines, c'est-à-dire qui risquent de mourir parce qu'elles n'ont pas assez d'audience, d'auditoire. Bon, c'est une manière éventuellement de leur redonner une nouvelle audience. Donc ça, c'est la première question quand même, en termes de connaissances. Puis la deuxième question, c'est le rôle de l'enseignant. C'est quoi le rôle de l'enseignant là-dedans ? Est-ce que, par moment, pour avoir suivi là encore certains MOOC, on se demande si ça ne serait pas mieux de mettre un acteur derrière la caméra ? Ça va faire appel à des compétences que les profs n'ont pas quand même généralement. Ça nous ferait du bien de nous remettre un peu à niveau sur certains sujets. Les technologies nous offrent des possibilités qu'on exploite, je pense, pas bien aujourd'hui parce qu'on n'est pas formé à ça. Donc est-ce que l'enseignant, c'est juste son rôle maintenant, sera dans cette optique-là de faire de l'ingénierie pédagogique, de concevoir des scénarios d'enseignement ? D'où l'idée de l'affiche, vous vous souvenez du début, l'affiche de cinéma. Enfin, on a parfois un peu l'impression qu'on est dans cette optique-là. Voilà, merci.
Un de mes camarades de promotion s'était lancé vers la quarantaine dans l'enseignement. Il a fait une année sabbatique comme enseignant en quatrième et il a écrit un livre qui s'appelle « Cœur de prof » et il est arrivé à la conclusion « Un bon enseignant, c'est un comédien doublé d'un flic ». Alors finalement, il n'y a plus besoin du flic avec les MOOC, mais le comédien est de plus en plus important.